Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bienvenue sur le podcast du raisin et des papilles. Le podcast qui vous parle du vin et de l'art de vivre en Alsace. Le bon vin, celui que tu bois avec tes copains, celui qui te donne des émotions. Vous aurez aussi nos coups de gueule et nos coups de cœur.
Ouh là là.
On va faire le trou normand, le calvadis sous les graisses, l'estomac creuse, et il n'y a plus qu'à continuer.
Ah bon?
Voilà, messieurs.
Oui, mais comment on boit ça?
Du sec.
Allez.
Moi, c'est Mika.
Moi, c'est Adrien.
Bienvenue dans cet épisode de Raisin et des Papilles.
Pour ce deuxième vin, alors ce deuxième vin a une couleur un petit peu bizarre. On dirait que c'est un vin orange.
Oui, c'est un. Alors, le nom de la cuvée, c'est Fleur de Macération. C'est un Pinot Gris de Macération. Donc, le vin en question, il est orangé, rose, un peu foncé. Tout simplement parce que la peau du Pinot Gris est violette. Et quand on fait une macération, donc on met le raisin dans une cuve et le jus est au contact de la peau, et les couleurs et les tanins de la peau se déteignent un petit peu, se dissoutent dans le vin. Donc on va avoir un vin qui normalement est produit des vins blancs, mais avec une couleur rosée.
D'accord, donc c'est de la macération. Toi, tu parlais tout à l'heure de macération, t'en faisais souvent ou t'as commencé assez tôt, je crois en 2014, 2015 aussi.
2015. Donc là, c'est la Fleur de Macération, donc Pinot Gris 2019. Et j'ai commencé, ma première cuvée, c'était 2015. Donc il n'y a pas si longtemps, si on y réfléchit bien, c'est mon quatrième millésime. Et en macération, ça fait partie de mon best-seller.
Je comprends en goûtant Yann. Il est gourmand ce truc.
Ah, très gourmand. Ouais, encore plus on ressent encore plus les arômes de fruits qu'avant. Et non, c'est vraiment super bon.
Moi, un petit vin orange avec tes clients, ce serait assez drôle, non?
Ça pourrait être pas mal, ça pourrait en surprendre plus d'un.
C'est le but, non?
C'est le but. On essaye de faire justement des choses un peu différentes que ce qu'on peut trouver ailleurs. C'est pour ça qu'on a pris le pari de mettre à la carte des vins, essentiellement des vins nature et bio. Donc pourquoi pas. Il faudrait le tester, faire un petit accord avec un bowl ou même peut-être un dessert, à voir.
Ce serait plutôt pas mal, mais... Est-ce que le vin orange, c'est quelque chose qui est c'est naturel?
Le vin orange, oui, il est tout aussi naturel que les vins. Alors, les vins oranges, c'est une technique qui est empruntée à la Géorgie. Hein. Moi, j'aime bien avoir plusieurs inspirations de différents pays. Donc ça, c'est la Géorgie. En Géorgie, tout leur raisin est macéré, que ce soit les blancs ou les rouges. Et en Géorgie, c'est plutôt dans des amphores enterrées. Ici, non, c'est dans des cuves. Alors, c'est moins glamour. Hein, c'est la macération dans des cuves en inox. C'est le vieillissement et dans des foudres en bois. Mis à part la technique qui est un peu différente. Hein, pour faire du vin blanc, on va mettre le raisin directement dans le pressoir. La pulpe du fruit est blanche. Donc, quand on met dans le pressoir, le jus va couler blanc. Là, c'est un peu différent. Au lieu de mettre le raisin directement dans le pressoir, on va d'abord le mettre dans une cuve où on mélange la peau et le jus, et le jus, à force, au bout de quelques jours, quelques semaines, va prendre une teinte différente, On sort le raisin de la cuve, on le met dans le pressoir et quand on presse sous le pressoir, ça va prendre cette couleur rosâtre.
Et c'est vrai qu'au niveau des arômes, j'ai toujours l'impression que les vins d'Alsace ont souvent des arômes assez forts et on les sent bien, mais j'ai l'impression que le fait de la macération accentue encore ces arômes, en tout cas au niveau du nez.
Donc là, on est sur une technique de macération. Alors, je vais m'adresser un petit peu aux vignerons qui nous écoutent ou aux grands amateurs. Donc, on est sur une macération que l'on va appeler semi-carbonique. Donc, la macération, c'est une chose qui est un peu différente. C'est-à-dire que, enfin, c'est traditionnellement en Alsace, on va fouler le raisin, presser le raisin, érafler le raisin, trituré, et c'est uniquement la peau qui est en contact du jus. Là, on va faire un peu différemment. On va essayer de créer une sorte d'infusion. Donc, on ne va pas triturer le raisin. On va juste poser le raisin dans la cuve et on touche pas. Et donc, la fermentation va se créer à l'intérieur de la baie du raisin. Et dans la baie du raisin, c'est là qu'il y aura l'expression de tout le fruit. Et donc, c'est seulement 15 jours plus tard, où on va mettre quand on va mettre les raisins dans le pressoir, où les raisins vont éclater. Sinon, tout le reste de la fermentation s'est fait directement dans la baie. Donc, on fait du thé, si tu veux, on touche pas, on laisse infuser, on laisse travailler tranquillement, et c'est ça qui va donner la puissance du fruit.
C'est quand même très alcooleux, non ?
Alors, ce millésime-là, il est pas si alcooleux. Il a 13,5 en alcool. Il y a des millésimes plus alcooleux. On a l'impression qu'il est alcooleux parce que la puissance aromatique est assez forte. Donc, c'est souvent assimilé à l'alcool. Alors, il est pas non plus très bon l'alcool. Hein. 13,5, c'est déjà un peu d'alcool. C'est pas un vin qui va avoir 14,5 ou 15 degrés d'alcool.
Et le Pinot Gris est vraiment le cépage qui s'applique bien, enfin la macération, c'est vraiment le cépage de macération ou tu fais aussi avec d'autres?
Donc en Alsace, on a la chance d'avoir beaucoup de cépages aromatiques, hein. Le Pinot Gris en fait partie, le Gewürztraminer et le Muscat. Sur ces types de macération, les cépages aromatiques sont très intéressants parce qu'on va révéler le fruit. Et donc c'est tout naturellement vers les cépages aromatiques que je me tourne. Que ce soit le Pinot Gris, le Muscat ou le Gewürztraminer, on va avoir une dimension de fruits supérieure et donc on va avoir des aromatiques que l'on connaît un peu moins tout en étant fort et intéressant.
Alors, tu valides ?
Oui, je valide. Après, c'est un procédé que je connaissais pas du tout, donc je découvre, hein, mais très belle surprise en tout cas.
Fallait expliquer tout ça aux clients, en fait.
Ouais, je pense que Philippe va me donner un petit cours avant. Hein.
J'aimerais bien rajouter une petite chose sur ces macérations. Il faut savoir que tous les vins rouges sont macérés. Et que j'utilise tout simplement la technique, la même façon de faire que j'aurais utilisé pour les pinots noirs ou pour les vins rouges. J'utilise exactement la même technique, mais avec des raisins blancs.
En tout cas, pour quelqu'un qui n'était pas très amateur de macération, j'ai mis longtemps à m'y mettre. Je trouve que je les trouve de mieux en mieux fait, plus équilibré. Ça, je trouve ça très bien. Alors par contre, j'aimerais quand même qu'on parle, parce qu'on n'en a pas parlé pour le moment, et j'ai gardé parce que j'aime bien l'ananas. Ça me plaît assez. Je voudrais qu'on parle de tes étiquettes, parce que les étiquettes racontent quelque chose, elles ne sont pas plates comme on peut le voir sur certains vins, donc j'aimerais bien que tu en parles.
Oui, donc là par exemple, on parle du vin qui s'appelle Fleur sur l'étiquette, alors ce n'est pas tout à fait ananas, même si on pourrait y croire, c'est un pot avec des fleurs dedans, parce qu'à l'époque de Guillaume Apollinaire, il n'y avait pas non plus tellement d'ananas qui circulait. Et on peut voir que le pot est dessiné à partir d'un poème et chaque feuille, chaque branche des fleurs sont une phrase du poème. Donc pour ceux qui veulent, je ne vais pas en parler beaucoup plus, il va falloir essayer de se procurer le calligramme. Bon, il s'avère que moi je peux vous les procurer facilement et vous pouvez regarder de plus près exactement le poème.
Mais comment est né cet amour pour Guillaume Apollinaire? Parce que bon, la poésie, il y a plusieurs vignerons qui s'y mettent. Bah, j'ai parlé de Lamartine en entrée. d'où est venu cet amour pour Apollinaire?
Alors Guillaume Apollinaire est un poète qui a écrit de magnifiques poèmes sur la vallée rhénane, notamment un poème qui s'appelle « Nurénan » qui est tiré du recueil « Alcool ». Tiens donc. C'est un poème qui a été écrit en 1913, un recueil de poèmes, pardon, écrit en 1913. Et il s'avère que mon père, à ses débuts, avait aussi utilisé l'influence de Guillaume Apollinaire pour créer ses étiquettes, qui étaient un peu plus traditionnelles. Donc dans le poème, on parle de fées aux cheveux verts qui plongent leurs cheveux dans le Rhin. Et ces fées, notamment ces cheveux, c'est la personnalisation du vignoble alsacien. C'est notamment pour ça que mon logo représente l'une de ces fées aux cheveux verts. Et voilà, Guillaume Apollinaire était un épicurien qui aimait bien la chair, bien le vin, bien les femmes, qui a écrit beaucoup de poèmes qui parlaient de vin. C'est mon ami.
J'aime bien ton ami. Alors, ce qui est bien aussi sur la contre-étiquette, c'est quelque chose que je voulais te dire parce que je trouve qu'elles sont très claires. Ce qui est souvent le cas avec les vignerons, les copains, il n'y a pas de souci. Mais on sait de quoi on parle. Et je trouve que. Alors, je vais te poser une question que j'ai posée dernièrement aux brasseurs, puisque eux, ils mettent déjà les ingrédients dessus. Si demain, on te demande de mettre les ingrédients sur le vin, sur la bouteille.
Alors, il y a moi, j'ai raisonné la contre-étiquette comme si c'était un produit alimentaire classique. Le problème qui se passe pour le vin, c'est que c'est considéré comme un produit, entre guillemets, de luxe. C'est comme ça que c'est au niveau de la loi. Et donc, par ce fait, il y a une obligation de non-étiquetage. Alors, c'est un peu bizarre comme chose à comprendre.
C'est surtout un peu hypocrite dans une époque où on nous veut la transparence surtout, que le client que le consommateur a le droit de savoir ce qu'il y a dedans. Je trouve que c'est un peu hypocrite, non?
C'est complètement hypocrite. D'ailleurs, là, maintenant, il y a de plus en plus des mouvements. D'ailleurs, j'ai encore vu aujourd'hui des pétitions, justement, de groupes de vignerons qui voulaient que toutes les choses soient mises sur la contre-étiquette. Moi, je n'ai rien à cacher. Moi, ma matière première, c'est du raisin et je n'ai rien d'autre. Donc, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Mon étiquette est totalement transparente. Par contre, le problème qui va se poser, c'est beaucoup de... Surtout les industriels, avec cette notion d'agro-industrie, où ils vont mettre 5, 10, 15 produits différents dans le vin. Ça, ils ne veulent pas que ça se sache. Et donc, il y a des lobbies derrière qui font que... on ne peut pas tout mettre sur l'étiquette.
En tout cas, on a compris que tu n'as rien à cacher, ce qui est plutôt rassurant, non?
Oui, tout à fait.
Parce que nous, en tant que consommateurs, on aime bien boire des choses. Après, c'est vrai qu'on parlait d'éduquer. L'idée de ce podcast, c'est aussi que, allez, si j'arrive à avoir 2%, 3% des auditeurs qui achètent leur vin ailleurs qu'en supermarché, c'est une petite victoire, une belle victoire, non?
Bah oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on va éveiller la curiosité des consommateurs et justement des auditeurs, c'est gagné, c'est bien. On va commencer tout doucement à changer. Alors, je ne doute pas que la plupart des gens qui vont suivre tes podcasts sont déjà un peu sensibilisés à ce genre de vin.
Alors, j'ai remarqué qu'on avait quand même pas mal de néo-consommateurs qui avaient peur des vins blancs ou des vins d'Alsace. Du mal de crâne, enfin toute la, je vais pas te faire toute la litanie de ce qu'on peut dire, qui sont de plus en plus rassurés, et on donne plutôt envie de boire, donc c'est plutôt une bonne chose. Alors attention, boire modérément, précisons.
Avec modération et surtout avec plaisir, c'est important.
Exactement. Juste avant de passer au troisième vin, je voudrais que tu me parles d'une chose. Alors on m'a posé une question hier sur un réseau social. C'est quoi le vignoble de Strasbourg? Parce que bon, Strasbourg n'a pas de vignes. Pourquoi on appelle ça? Alors,
le vignoble de Strasbourg a maintenant des vignes. Grâce à l'expansion de l'Eurométropole de Strasbourg, le Hossofen, là où j'ai des vignes,
exactement,
est dans l'Eurométropole. Donc maintenant, il y a un vignoble à Strasbourg. Donc le vignoble de Strasbourg a été fondé dans les années 80 par mon père. Et il y a deux vignerons, donc notamment aussi Jean-Jacques Muller. C'est tout simplement le fait de vouloir promouvoir le vignoble le plus proche de Strasbourg aux Strasbourgeois. C'est un vignoble qui est très mal connu parce qu'il est sur le nord du vignoble, parce qu'on connaît plus le vignoble vers Colmar ou plus dans le sud. Et il y a un groupement de 25 vignerons à peu près, 20-25 vignerons, qui vont se regrouper pour créer des animations, notamment la fête des vendanges à Strasbourg et bien sûr d'autres, ou au marché de Noël. Et ils vont se mettre en collectif pour proposer des animations strasbourgeoises.
Mais je crois que ce qui fait sourire et ce qui me fait un peu sourire, c'est que vous êtes vignoble de Strasbourg et je crois que vous êtes très peu présent dans Strasbourg.
Donc on est oui et non. Par exemple, les vignerons qui sont au niveau de la nouvelle douane, ce sont les vignerons de la Couronne d'Or qui ont créé le pôle Viti, le pôle où il y a le vin. Après, on n'est pas trop présent au niveau des restaurants, des cavistes. Il y en a un petit peu, mais pas tant que ça. Bah, tout simplement, j'ai l'impression qu'on est trop proche, donc moins attractif, quoique c'est faux. Mais en tout cas, on essaye de faire de plus en plus. C'est pour ça qu'on s'est mis en collectivité, pour montrer qu'on a toute notre place à Strasbourg.
Alors, est-ce que Strasbourg aurait une carte à jouer dans la route du vin, alors, dans le sens large du terme, et dans le vignoble de Strasbourg?
Alors oui, effectivement, alors pas que au niveau du vignoble de Strasbourg, mais on peut l'étirer un petit peu, hein. Le vignoble de Strasbourg est qu'une petite partie du vignoble. Il est vrai que beaucoup de touristes passent par Strasbourg, on parle de millions de touristes, et à l'heure actuelle, il n'y a pas tellement de choses qui sont proposées aux touristes pour aller voir les caves, visiter les vignerons, goûter du vin. Et là, le marché à prendre est énorme.
Alors moi, j'ai envie de te poser une question, Yann, parce que c'est... Alors on en reparlera quand on parlera de ton restaurant, mais pourquoi t'as accepté, parce que t'aurais pu choisir la facilité de chercher ton vin ailleurs, pourquoi t'as décidé de mettre du vin d'Alsace?
J'étais moi-même pas fâché, mais on va dire... Il y a des régions que je préférais.
Le vin d'Alsace, c'est ringard, comme dirait l'autre, j'ai l'impression.
Dans les yeux. Les Alsaciens veulent savoir. Est-ce que le vin d'Alsace est ringard?
Non, pas du tout, mais je pense que il est pas...
Les Français ont le droit de savoir.
Ouais. Et je trouve qu'il est pas assez mis en valeur en Alsace. J'ai eu l'occasion de voyager et de travailler à Hong Kong. Et le vin est plutôt présent en Chine, le vin d'Alsace. Et plutôt apprécié. Je pense que bah voilà, c'est une erreur de un petit peu boycotter le vin d'Alsace, surtout ici. Et je pense que avec des viticulteurs comme Philippe, qui devraient être mis en valeur un peu plus souvent. Moi, j'ai des amis qui m'ont fait tester du vin nature et c'est vrai que j'ai beaucoup apprécié. Et du coup, après, c'est toi-même qui m'a présenté 2-3 viticulteurs et je regrette aucunement d'avoir mis à la carte des vins nature qui s'accordent vraiment bien avec la carte que nous proposons.
Alors je vais te poser une question qui va titiller un petit peu, mais c'était aussi le but. Est-ce que, parce que tu es commerçant, donc un commerçant fait un chiffre d'affaires, est-ce qu'en mettant du vin nature, que ce soit Alsace ou pas, à la carte, est-ce que tu as baissé en chiffre d'affaires?
Non, je ne vais pas dire que j'ai baissé en chiffre d'affaires, mais on va dire que j'ai l'impression que de plus en plus il faut que je vérifie ça, hein, mais avec le comptable, mais j'ai l'impression qu'on vend de plus en plus de vin, donc du vin nature, puisqu'on en a quasiment que ça, et même sur des bières artisanales, donc on travaille avec Perle et Brassin des Frangins, donc on est en train de mettre ça en place et ça évolue un petit peu chaque jour. Ça, j'ai l'impression qu'on en vend de plus en plus, donc on va essayer d'aller dans cette tendance, même si je tiens encore à le préciser qu'il faut boire modérément.
Et mangeons sainement et buvons modérément.
Voilà, buvons bien, on va dire.
Peu mais bien. Mais alors je crois que je peux préciser que même sur le café, t'es assez présent, t'as Omnino qui travaille. Je crois qu'il y a même, pour l'épisode précédent, Estibébé, je crois qu'il y a des choses qui se trament.
Oui, on va pas trop en dévoiler tout de suite, mais il y a de fortes chances qu'on collabore avec Zesty Bébé. Et puis Omnino, j'avais eu l'occasion de goûter leur café, puisque c'est des produits mulhousiens. Et c'est vrai que j'avais vachement aimé leur démarche. Et puis voilà, le but c'est aussi de faire travailler le plus de producteurs locaux. Puisque ben voilà, avec l'avocat, on essaye déjà d'avoir des fournisseurs européens, essentiellement en Italie ou en Espagne. Donc on va dire que tous les produits locaux qu'on peut avoir d'ici, ben on va essayer de travailler avec eux.
Bon, j'ai envie de dire, vu la démarche locale que tu as, si tu as l'avocat, si quelques-uns te reprochent l'avocat parce que ça vient de loin, ça t'est déjà arrivé, je crois.
Hein. Oui, ça m'est déjà arrivé. C'est sûr que on évite d'avoir des avocats d'Amérique latine, puisque c'est devenu un vrai business qui est tenu par les cartels de drogue. On appelle ça même l'or vert. Du coup, moi, j'ai un fournisseur qui fait pousser ses avocatiers au pied de l'Etna en Sicile, et qui a une démarche un petit peu écologique et qui fait des avocats bio. Donc, on est en train de mettre en place un partenariat avec lui.
Du coup, tu pourrais conseiller à d'autres confrères restaurateurs d'aller dans cette démarche locale, nature, traçabilité correcte.
Oui, c'est sûr que je ne peux que recommander. Mais après, si je peux être le seul à le faire, ben, je préfère rester seul à le faire.
Avec plaisir. Place au troisième vin. Vin numéro 3 pour la dégustation. Nous sommes... Alors, je suis un peu étonné parce que c'est un vin rouge en Alsace. Qu'est-ce qui se passe?
Ben, en Alsace, on a des vins rouges. Par exemple, le Pinot Noir. Mais celui-ci est un peu différent.
Alors, celui-ci est différent. Mais en quoi est-il différent?
Donc, ça, c'est un rouge qui provient de la collaboration entre copains vignerons. Donc, c'est pas des copains vignerons alsaciens. Hein. Donc, on fait des échanges de raisins dans le sud ou dans d'autres régions de France. Moi, par exemple, sur la cuvée qu'on va présenter qui s'appelle le Loup, j'ai fait un partenariat avec un vigneron qui est situé au niveau du Mont Ventoux. Et donc, j'ai pu récupérer quelques raisins de grenache noir. Et le vigneron en question a récupéré quelques raisins de Riesling. Et donc, on fait des échanges de raisins. Et ça nous permet de proposer des cuvées atypiques.
Ce serait drôle de tester son Riesling qu'il a vinifié avec tes raisins. Ce serait assez drôle.
Bah, il faudra faire une nouvelle émission avec tous les vignerons qui vinifient mes raisins.
Mais je crois que tu as un salon qui est en prévision.
Oui, exact. Une grosse partie de ces vignerons avec qui je collabore vont venir chez moi au corps de ferme le 26 octobre, 26 et 27. Donc c'est un salon que j'appelle à contre-courant et c'est la troisième édition. Et chaque année, je fais venir mon réseau de collègues vignerons, copains vignerons. Et j'ai fait venir et j'organise un petit salon entre amis. Il y aura quelques Alsaciens aussi. Et comme ça, on pourrait goûter les vins nature des autres régions et pas que alsaciens.
On pourra y faire un petit reportage.
Ah, avec plaisir, bien sûr.
Chouette. Du coup, donc on est sur de la grenache. Tu l'as trouvé, toi, la grenache?
Honnêtement, je ne l'avais pas trouvé.
Il y a autre chose derrière.
Il me cache la bouteille, hein, si jamais... non, là je triche un peu, mais j'ai un vague souvenir que c'est un Pinot Gris de macération qui accompagne la grenache.
Tes papilles sont trop fortes. Alors, parle-nous de la création de ce vin-là. Alors, en fait, je voudrais que tu me parles de ce vin-là, forcément, puisqu'on le déguste, mais je crois qu'il y a d'autres vins qui sont en rapport avec ça, et encore une fois... On va parler de tes étiquettes parce que tiens, on va faire un petit truc. Il y a le serveur de la Vauboule qui est là. Alors je vais te montrer l'étiquette et essaie de deviner de quoi parle l'étiquette.
Le poète.
Quel est le poète dont parle l'étiquette?
Le poète de l'inspiration. Alors je vois un loup gris bleuté avec un fond sûrement minéral.
C'est Game of Thrones.
Ouais, à peu près, ouais. Ouais, pas mal. Sur un fond bordeaux plutôt clair.
Alors, je vais te mettre. Je vais. Tu veux un indice? Tu veux un indice? Alors, il a un autre vin qui s'appelle la Single, un autre vin qui s'appelle l'Agneau, un autre vin qui s'appelle la Fourmi.
Molière.
Pense à un poète.
Molière.
C'était pas un poète.
C'est vrai? Un poète?
Non, si je te dis que la première année j'ai fait la Single et la Fourmi. La deuxième année, j'ai fait Maître Corbeau, Maître Renard. Là, c'est le Loup et l'Agneau. Et l'année prochaine, je fais le Lièvre et la Tortue.
Alors, qui est-ce?
Il a fait de...
Ton CDI est en jeu. Hein.
Il a fait de très belles fables.
La Fontaine, pardon.
Eh oui, non qu'on passe d'Apollinaire à La Fontaine. Donc...
C'est six belles saveurs naturelles qui ont brouillé mon cerveau, mais magnifiquement.
Ah bah, La Fontaine est connue pour La Fontaine est connue pour avoir une écriture assez naturelle aussi. Ça pas toujours plu au roi d'ailleurs, mais c'est une belle invention. Donc ça veut dire que, si je résume, tu fais des vins d'Alsace,
oui.
Mais tu fais aussi ce qu'on appelle des vins de France.
Oui. Donc j'ai deux gammes à proposer. Bon, bien sûr, là, on vient de goûter la première qui est sur mes raisins de mes vignes alsaciennes, sur mes 10 hectares. Et à côté de ça, j'ai quelques cuvées qu'on va appeler anecdotiques, une ou deux par an, que j'appelle nés ailleurs, élevés ici. Donc, c'est vraiment cette notion de collaboration entre copains vignerons, où je vais chercher des raisins qui sont nés ailleurs, dans d'autres régions, que je monte en Alsace et que j'élève en Alsace et que je vinifie en Alsace.
Alors, est-ce qu'on pourrait imaginer un jour faire un épisode avec que des vins nés ailleurs, élevés ici?
On pourrait en faire un. On pourrait faire déjà les différents endroits que j'ai pu avoir. Donc, moi, chaque année, c'est des cépages différents et des vignerons différents. Et comme indiqué juste avant, lors du salon que je vais créer en fin d'année, que je vais reproduire en fin d'année, une grosse partie de ces vignerons seront présents.
Alors, est-ce que tu t'imagines de participer à un épisode où on va goûter des vins nés ailleurs, élevés ici?
Ah oui, avec plaisir.
Il a les yeux qui frétillent. On avait la moustache et il a les yeux.
Ouais.
Mais non, c'est ça que j'aime dans les vins d'Alsace. C'est pour ça que j'ai envie de vous défendre. Alors souvent on dit que je suis le porte-parole, moi je suis le porte-parole de personne, je porte la parole à personne, mais c'est vrai que l'idée de cette démarche là, c'est ce que je dis souvent aux clients quand je passe à la Google, que vous pouvez mettre ça sur une table à Noël par exemple, personne ne pourra dire ah oui c'est fait en Alsace, et c'est ça qui est génial.
Oui, on est sur une démarche qui est complètement atypique. Hein. Il faut déjà, à la base, être un peu fou pour faire ça. Tout est parti de 2016. J'ai eu un problème dans les vignes. Hein. J'ai été grêlé à 80%. Et mon problème étant que j'avais pas assez de raisins à vinifier pour arriver à en vivre. Et donc, tout simplement, au lieu de prendre des raisins un petit peu lambda par rapport à mes collègues vignerons, je me suis tourné naturellement vers les gens que j'appréciais, mes copains de cœur, qui étaient aussi vignerons, mais dans d'autres régions. Et je suis parti à l'aventure. Hein. À l'époque, personne ne faisait ça, hein. Cherchait des raisins pour les vinifier en Alsace. Et donc, je me suis lancé un petit peu à corps perdu dans l'aventure, et sans savoir vraiment si j'arrivais à les vendre ou pas. Et au final, les vins plaisent, je suis très content. Et depuis ce jour-là, je continue parce que je me suis aperçu que ça m'a permis d'affirmer mes compétences de vinificateur sur des raisins qui ne sont pas les miens, sur des raisins qui ne sont pas de mes régions, sur des cépages que je ne connais pas forcément non plus, et quand même essayer de trouver un peu... mon intérêt est de développer ma sensibilité par rapport à la vinification. Voilà.
Alors, ce loup, t'en penses quoi?
Ah ben, c'est simple, hein, j'en ai commandé pour les mettre à la carte et je n'en ai déjà plus.
Et tu es passé sur le bleu, je crois.
Et oui, et on est passé sur le bleu depuis la semaine dernière.
Alors je crois que le bleu, c'est une démarche que, dont tu parlais tout à l'heure avec tes employés. L'un qui voulait faire la négo, l'autre qui veut faire ses propres vendanges. Tu es dans cette démarche de partage, de cette démarche d'entraide qui te caractérise bien. Moi-même, je monte mon projet, tu es assez derrière moi et moi, ça me... Et un jour, j'espère pouvoir te dire merci. J'ai envie de te poser la question, qu'est-ce que ça t'apporte d'aider les autres ? Pour toi personnellement,
moi j'arrive à un niveau dans ma vie où maintenant je vais avoir bientôt 40 ans, où j'ai travaillé depuis que je suis enfant dans le vignoble, hein. Depuis que j'ai 13 ans, je travaille avec mon père dans le vignoble, et donc le métier de vigneron, là maintenant je commence à avoir 15-20 ans d'expérience, je commence bien à le maîtriser, et la chance que j'ai, c'est qu'actuellement ça se passe bien pour moi. Le vignoble tourne, j'ai la chance de pouvoir bien valoriser mes bouteilles et donc en faire profiter à mes employés aussi. Et je pars du principe que d'autres personnes ne sont pas forcément dans mon cas. Et pourquoi pas utiliser l'énergie que j'ai sur mon domaine, que j'ai pu créer sur mon domaine, et en tant que vigneron qui fonctionne bien, pourquoi pas aider d'autres personnes, et j'en trouve entière satisfaction dans cette façon-là. Donc là, maintenant, à l'heure actuelle, je dois être peut-être à une quinzaine de vignerons que j'ai aidés, et j'arrête pas et j'adore ça.
Et je crois que même avec tes employés, tu as une démarche assez différente en tant que... Alors, on parle de ressources humaines, mais tu es très attaché au fait qu'ils goûtent les vins, que vous les goûtiez ensemble, mais je crois même que tu les associes à la vinification, donc ils te donnent leur avis. Et qu'est-ce que ça change, qu'est-ce que ça t'apporte?
Donc nous, sur le domaine, on est sur une hiérarchie circulaire, si on peut dire ça comme ça, et pas pyramidale. Donc la notion de patron, elle est un peu biaisée. Alors bien sûr, il faut une notion de leader, une personne qui va donner la directive et qui va... le fil rouge du domaine.
Ça reste ton nom quand même.
Ça reste mon nom, mais... oui, mais j'associe aussi beaucoup les personnes avec qui je travaille, donc je les motive, et donc toute personne qui vient bosser chez moi a son mot à dire au niveau de la vinification, au niveau de la vigne, pour bien sûr dans un sens positif, hein, il faut que les choses que les personnes veulent amener soient cohérentes. Mais à partir du moment où on est tous sur la même longueur d'onde et qu'on veut tous le bien du domaine pour évoluer, la moindre réflexion, la moindre idée, la moindre recherche va être entendue et votée par les personnes qui travaillent, pas que pour moi. Moi, je compte pour une voix, les autres comptent pour une voix. Et si une personne a l'unanimité selon les votes, bien, on se met tous à son service pour arriver à l'objectif, que ce soit en vinification ou en vigne. Donc ça, c'est une première façon d'intégrer un petit peu les personnes avec qui je travaille, et ça donne des ailes. Donc maintenant, à l'heure actuelle, quasiment toutes les personnes qui ont travaillé chez moi sur le domaine ont des envies et vont créer leur propre domaine, que ce soit au niveau viticulture, au niveau négociant, enfin des petits négoces, hein, comme la notion de copain vigneron. Et là, à l'heure actuelle, toutes les personnes qui ont l'envie, qui ont travaillé avec moi, alors peut-être pas pendant une semaine, mais qui ont travaillé avec moi pendant un an, deux ans, voire plus, qui veulent se lancer eux-mêmes, je les aide à la fois financièrement et dans le suivi des vignes par rapport à leur projet.
Alors, ce qui serait intéressant, c'est de créer le premier podcast réalité. Non, c'est de suivre justement un de tes jeunes, un de tes bleus. Il y a un vin d'ailleurs qui s'appelle le bleu.
Oui, ben là il y en a un. Par exemple, là c'est une personne que j'apprécie beaucoup. Donc là on est sur quelque chose d'un poil différent. C'est un collègue vigneron qui a 27 ans. Ça fait plusieurs années qu'on s'entraide dans le vignoble. Il nous donne des coups de main quand on est en galère. On lui donne des coups de main à lui quand lui il est en galère. Et là il s'avérait que... vu qu'il se lance, qu'il est en bio, il avait des problèmes financiers parce qu'il se lance, il n'est pas trop connu, il avait un peu du mal à vendre son vin. Et je me suis proposé de lui acheter ses raisins de Pinot Noir pour l'aider financièrement. Et en gros, j'ai pris les risques de la vente de ces raisins de Pinot Noir. Et ça a permis de le soulager. Et donc moi, maintenant, je commercialise cette cuvée qui s'appelle le Bleu. Et dans une notion d'entraide et de collaboration entre vignerons.
Donc tu as la carte, un vin d'entraide, c'est magnifique.
Ah, c'est beau.
Je pense que c'est quelque chose que tu devrais, que tu peux préciser aux clients, parce que c'est le genre d'histoire qu'ils aiment bien.
Ah oui, oui, bah, c'est pour ça qu'on a une petite leçon avec Philippe, hein, qui puisse nous expliquer tout ça, et puis pouvoir après l'expliquer nous aux clients.
Alors moi, je te propose autre chose, c'est de faire ce Bleu, ce jeune homme, qu'on fasse un podcast avec lui. Alors on n'a pas non plus pignon sur rue, mais... commence à être écouté, puis c'est aussi l'idée de ce podcast, hein, c'est de le faire connaître. Donc ce serait bien que le parrain et le filleul, on fasse un petit épisode ensemble. Qu'en penses-tu?
Avec plaisir. Donc il faudra juste se contacter, hein, mais je pense qu'il sera tout à fait ouvert. Il est tout nouveau, il arrive, il se donne du mal. Il est en biodynamie, il commence ses premières cuvées en vinification nature, et je pense qu'il a un grand potentiel.
Bah dans ce cas-là, ce potentiel, on va l'exploiter. T'en penses quoi?
Bah, on a hâte de tester ces futurs vins. Hein.
En gros, tu vas venir avec moi?
Pourquoi pas, si on arrive à avoir un peu de temps.
Tu trouves un gîte pour le 26-27 Parce que je crois qu'on va passer 2 jours de folie. En tout cas, c'était un plaisir de t'avoir comme toujours. Moi, je te remercie d'avoir été le parrain de la première soirée. C'était très gratifiant et les gens ont apprécié. Je pense que tu as une voix qui doit compter, qui peut compter. Alors, vous êtes plusieurs, mais c'est vrai que c'est toujours... moi, je considère toujours...
On est plusieurs, mais pas nombreux. Donc, toutes les voix peuvent compter.
Ben, moi, de toute façon, je suis un peu le média officiel de votre association parce que je crois que j'ai beaucoup de gens de cette association-là. Je pense que vous avez des choses à dire. Il est temps que les choses changent. Alors, c'est vrai que l'écologie prend de plus en plus de place dans la société, que ce soit au niveau du consommateur, même dans la vie politique. Maintenant, je pense qu'il faut qu'on continue à raconter cette histoire-là, que vous soyez un petit peu... Ben, vous avez de la chance d'être des passeurs d'histoire pour la génération d'après. D'ailleurs, pour conclure, tu penses à l'après ?
Je pense à l'après. Pour l'instant, dans la vision actuelle, elle est compliquée, l'après. Mais comme vous avez pu comprendre, je suis une personne assez positive et je pense que les choses, les gens, les personnes qui vont changer le monde d'après sont déjà là.
Alors le monde d'après, pour moi, j'ai plus l'impression que c'est un slogan qu'autre chose, c'est à nous de le créer. Comment as-tu vécu cette aventure du raisin et des papilles?
Ah, magnifiquement bien, de super personnes, intéressées et passionnées par le vin, à refaire, bien sûr.
On refera avec plaisir. Quand est-ce qu'on te retrouve, toi, dans du raisin et des papilles?
Ben, à toi de me dire, hein.
On va mettre ça au clair, hein. Il est temps de tirer ça au clair.
Je pense que cet été ça devrait pouvoir se faire.
Oui, et puis surtout qu'on boit pas mal, alors autant l'enregistrer, hein.
Exactement.
En tout cas, merci d'avoir suivi cet épisode numéro 13. Porte-bonheur.
J'espère, porte-bonheur, hein. C'est pas le porte-bonheur pour tout le monde, pour moi c'en est un notamment, mais voilà.
Alors, on va se retrouver très vite pour l'épisode 14. Je ne sais pas où on sera, mais on y sera avec plaisir et cœur. Je vous annonce aussi que dès le mois de septembre, on va intégrer le Haut-Rhin parce qu'il est temps qu'on y aille. Il y a quelque chose, il y a les brasseurs qui s'y préparent également. Toujours dans cette idée de parler d'écologie différemment, de faire des passeurs d'histoire, de vous raconter la vie de ces agriculteurs, parce que un vigneron reste un agriculteur, quoi qu'on en dise, de continuer à vous raconter ces histoires de saveurs, de palais, de vous faire plaisir. Faites-vous plaisir. Comme je dis toujours, pour finir, buvons modérément, buvons Alsace, buvons libre. Skilt.
N'oubliez pas de partager et de liker cet épisode. Nous serons diffusés sur Spotify, Deezer, SoundCloud, YouTube. Si vous avez iTunes, mettez 5 étoiles et un commentaire. Enfin, le vin reste de l'alcool. Buvez modérément,
partagez ce breuvage entre vous, mais surtout, ne mettez pas votre vie en danger.